pour répondre à une question qui m'a été posée à la fin de l'heure précédente, si je peux me permettre, sur l'utilité de la description. Il est bien évident que vous avez des lignes de force, des structures, une syntaxe du conflit israélo-arabe et du conflit israélo-palestinien. À la limite, on n'aurait pas besoin de faire d'histoire, il suffirait d'un cours de géographie en prenant les cartes de l'expansion d'abord du mouvement sioniste et puis ensuite de l'État d'Israël depuis 1880 jusqu'à nos jours. Il suffit de mettre une série de cartes tous les 10 ans et tout est dit. Mais le but de la description, en dehors de meubler mon temps et le vôtre, est de montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire de vous montrer que ce conflit, comme d'autres conflits éventuellement, fonctionne par séquence. Et que vous avez des séries de séquences qui sont relativement courtes, généralement de quelques semaines. Et ensuite, on bascule de séquence en séquence, ce qui donne chacune des séquences étant intelligible. C'est ça que je veux dire. L'ensemble peut paraître plein de bruit et de fureur, éventuellement raconté par un idiot, selon la formule shakespearienne. Mais en remontant dans une chronologie aussi précise, on isole les séquences qui, elles, ne sont pas seulement pleines de bruit et de fureur, mais qui sont intelligibles en soi. Et d'autre part, malgré tout, il y a une progression dramatique, non pas de ma part, mais de la part des événements. Les choses apparaissent, disparaissent, etc. Par exemple, à l'instant, on vient de signaler que le mot « résistance » est en train de devenir le nouveau mot d'ordre au Liban. C'est ce qui va structurer tout le Liban jusqu'à aujourd'hui. Or, c'est dans l'accord tripartite que le terme se trouve pour la première fois consacré au sein d'un dialogue politique essentiel au Liban. Donc, on voit apparaître des thèmes qui vont prendre de la puissance. Mais je reconnais que vous avez la vanité de l'événementiel par rapport à la structure. Mais ça, c'est valable pour tous les champs du savoir historique. Mais il faut d'abord établir les séquences, et ce n'est pas parfois évident. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la quantité de travail nécessaire pour arriver à analyser telle ou telle séquence. Et plus on se rapproche de l'actualité, plus c'est difficile, étant donné que la documentation devient plus éparse et plus confuse. Enfin, ça a le mérite de nous rajeunir pour un certain nombre d'entre nous, puisque les épisodes qui sont cités ici sont des épisodes que l'on a pu connaître ou vivre ou être sur place à certains moments. Donc, reprenons maintenant le vif du sujet. Le 19 février 1986, le roi Hussein met fin aux différentes tentatives de médiation dans un discours radiodiffusé. Lui-même et son gouvernement ne peuvent plus poursuivre la coordination politique avec le commandement de l'OLP. Il fait l'historique des discussions et fait porter la responsabilité de l'échec sur l'OLP, qui aurait pu évoquer le droit à l'autodétermination lors de la négociation elle-même. Néanmoins, les principes de l'accord d'Amman continueront à être les fondements qui régiront les relations entre les peuples jordaniens et palestiniens. Je cite notamment ce qui concerne l'égalité des droits et les obligations face à leur destin commun. Le monarque jordanien semble alors découvrir que la politique israélienne en est restée soit au plan Alon, soit au projet d'autonomie des personnes et non des territoires. Jusque-là, il avait fait comme si le retrait des lignes du 4 juin 1967 était acquis et que la négociation portait sur les modalités de la confédération jordano-palestinienne. L'utilisation du terme « commandement de l'OLP » laisse entendre que l'on pourrait s'accommoder d'une nouvelle direction ou de personnalité palestinienne en dehors de l'OLP. L'OLP exprime sa surprise. tandis que Shimon Peres exulte. Les travaillistes multiplient les déclarations affirmant que l'on peut se passer de l'ONP et que c'est aux habitants des territoires de prendre leur destin en main. Il s'agit de paroles creuses, puisqu'il n'est pas question de procéder à des élections, même municipales, tout le monde sachant que l'ONP risquerait de les remporter haut la main. Par exemple, sur une demande des habitants, s'appuyant sur une demande des habitants des territoires pour la tenue d'élections, la Haute Cour de justice israélienne avait reconnu le 24 décembre 1984 que le gouvernement militaire avait de bonnes raisons de croire que des élections renforceraient considérablement les positions de l'OLP et des adversaires des accords de Camp David, et donc avait raison de refuser de procéder à de nouvelles élections en Cisjordanie. Donc ça montre bien la sincérité des propos. La seule mesure qui avait été prise, acceptée des deux parties, avait été la désignation. C'est pas le bon fichier que j'ai pris. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas les noms propres sur ce fichier-là. L'indignation de Zafer al-Masri comme maire de Naplouse avec l'accord de la Jordanie et l'approbation de Khalil al-Wazir, Abu Jihad, au début de l'année. Ce membre d'une des grandes familles de la ville sera assassiné le 2 mars 1986 par le FPLP, annonçant que tout traite adhérent au projet jordano-israélien connaîtrait le même sort. Ses funérailles réunissent 50 000 personnes et se transforment en manifestation de soutien à Arafat. La réplique jordanienne sera d'interdire l'entrée en Jordanie de tout opposant notoire au discours du 19 février. La Jordanie est ainsi réduite à suivre la politique du bâton et de la carotte sur le modèle israélien. La stratégie de l'ONP, elle, est d'essayer de sauver l'acquis en Jordanie, tout en se rapprochant de Bagdad, l'ennemi de la Syrie. Les Tunisiens exercent une certaine forme de contrôle politique sur le siège de l'ONP, ce qui interdit de faire de Tunis une base opérationnelle, et la guerre civile qui vient de se dérouler au Yémen du Sud y paralyse l'action de l'ONP. Donc l'Irak, à partir de 1986, est le seul pays qui accepte de voir l'OLP installer les infrastructures nécessaires pour des actions de lutte armée. Au mois d'avril, les autorités jordaniennes organisent une nouvelle dissidence de l'OLP et du Fatah et chassent les militants arafatistes. Cette dissidence, au nom de la lutte contre la corruption, n'a aucune base populaire, mais maintenant la confrontation est ouverte entre l'OLP et la monarchie. Alors, tout ça doit prendre en compte la nouvelle conjoncture de 1986. Donc, nous allons faire un zoom arrière, si j'ose dire, enfin revenir à un plan large, sur le plan de l'économie mondiale d'abord. L'accord monétaire de l'hôtel Plaza, conclu le 22 septembre 1985, met fin à la période d'appréciation continue du dollar commencée à la fin de l'administration Carter. Par rapport aux principales monnaies du monde industriel, la devise américaine entre dans un processus de dépréciation rapide. Or, la hausse de la valeur du dollar avait en partie compensé la baisse continue du prix du pétrole amorcée après le second choc pétrolier. Les pays arabes du Golfe finançaient de surcroît l'effort de guerre de l'Irak par des aides diverses et des prêts, alors que les pays exportateurs de pétrole hors OPEP, mer du Nord, Alaska, accroissaient constamment leur part de marché alors que leur coût de production était plus élevé. Pour essayer de maintenir les prix, l'Arabie saoudite avait été contrainte de réduire à plusieurs reprises sa production et de puiser dans ses réserves financières pour faire face à ses besoins. Les revenus pétroliers du royaume sont ainsi passés de 113 milliards de dollars en 1981 à 28 milliards en 1985. cet effort est voué à l'échec en raison de l'indiscipline des autres membres de l'OPEP qui ne font pas un effort équivalent et de la concurrence de la mer du Nord. Au début de 1986, l'Arabie saoudite renverse sa stratégie en augmentant sa production afin de se lancer dans une guerre des prix contre les autres producteurs. Les prix du baril tombent à 15-18 dollars au lieu de 27-28 dollars en 1985. Donc ça, c'est la conjoncture de la rente pétrolière. Le 9 février 1986, l'Iran lance une nouvelle grande offensive, l'opération Fajr Oub, c'est-à-dire Oub en arabe ou en turc, en persan aussi d'ailleurs, 8 destinées à s'emparer de la péninsule de Fao et de couper l'accès de l'Irak au Golfe, menaçant ainsi Basra et les lignes de communication entre le Koweït et l'Irak. L'armée iranienne arrive jusqu'à proximité du port d'Umm Qasr, principal d'accès de l'Irak à la mer. Les combats sont intenses, ponctués d'offensives et de contre-offensives des deux belligérants. L'inquiétude est très grande dans les pays arabes du Golfe, en particulier au Koweït, directement menacé par la progression iranienne. De Koweït, on entend les tirs de la bataille qui se situe maintenant tout à fait à proximité des frontières de l'Émirat. La Syrie se trouve ainsi placée dans une situation difficile face à un front arabe uni de soutien à l'Irak et elle déclare qu'elle ne peut accepter une expansion territoriale de l'Iran aux dépens d'un pays arabe. En mars, l'Arabie saoudite a un recours de nouveau à l'arme pétrolière en augmentant massivement la production. Le prix du baril chute à 10 dollars. En dehors de l'objectif premier de rétablir la prépondérance pétrolière de l'Arabie saoudite sur le marché mondial et d'infliger ainsi une sévère leçon aux autres pays exportateurs OPEP et non OPEP, l'Iran est clairement visé. En quelques semaines, la République islamique a perdu 70% de ses recettes pétrolières, indispensables à son effort de guerre. Alors, ce qui n'est pas prévu dans ce genre de choses sont les victimes collatérales. Et la principale victime collatérale de l'effondrement du prix du pétrole, c'est l'Union soviétique et le bloc de l'Est, qui perdent d'un seul coup une grande partie de leurs ressources en devises, alors qu'ils sont lourdement endettés à des taux élevés auprès de la finance occidentale. Le contre-choc pétrolier est un élément essentiel de l'effondrement du système soviétique au moment où il se libéralise sous l'impulsion de Gorbatchev. Du fait du manque de moyens d'importer des produits occidentaux alimentaires ou technologiques, le niveau de vie décline constamment dans les pays de l'Est, alors que la réorganisation en cours se transforme en désorganisation économique. À la fin d'avril 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ébranle tout le modèle de développement soviétique. Autrement dit, aujourd'hui, les historiens mettent beaucoup plus en avant le contre-choc pétrolier que la guerre des étoiles dans l'effondrement économique de l'Union soviétique. Alors évidemment, à la base, c'était naturellement toutes les déficiences du mode de production soviétique qui sont en cause, puisque l'Union soviétique n'avait jamais réussi à être un pays exportateur de biens manufacturés. Mais ce qui s'était produit, c'est qu'à partir des années 60, l'Union soviétique était en train de devenir un exportateur de matières premières, en particulier de matières premières énergétiques. Et donc, c'est l'effondrement du cours des matières premières énergétiques qui est une cause immédiate de l'effondrement économique de l'Union soviétique. Les deux chocs pétroliers ayant en quelque sorte permis à l'Union soviétique de se maintenir au-delà de ce que permettait réellement sa situation économique. Ceci donc pour votre culture générale. La diminution de la rente pétrolière frappe l'ensemble de l'Orient arabe, entraînant là aussi une forte baisse du niveau de vie des pays producteurs comme des pays non producteurs. Si en 1986, on est encore en guerre froide, Il est déjà clair que l'Union soviétique n'a ni les moyens ni la volonté de soutenir les pays arabes dans une confrontation avec les États-Unis. Et le premier message envoyé par l'Union de Moscou, c'est à la Syrie, en disant qu'il est impossible à la Syrie d'obtenir la parité militaire avec Israël. Parallèlement, la chute de Marcos aux Philippines, le 25 février 1986, indique un infléchissement de la politique américaine qui n'est plus prête à soutenir obligatoirement une dictature anticommuniste. Les régimes autoritaires d'Amérique latine retournent progressivement vers la démocratie, permettant l'émergence d'une nouvelle discipline de sciences politiques, la transitologie, ou étude des transitions, vers la démocratie. Autrement dit, la chute de Marcos est le premier acte de ce qu'on appelle la première vague de transition démocratique de la fin du XXe siècle, qui est donc la fin des dictatures dans le monde hispanophone et aussi lusophone avec le Brésil. La seconde vague de transition sera bien évidemment, après la chute du mur de Berlin, les démocraties populaires. Et semble-t-il, en 2011, on est arrivé à la troisième vague décalée par rapport aux deux premières, avec ce que l'on appelle le printemps arabe. Du coup, les transitologues ont de nouveau un avenir, ce qui n'est pas négligeable pour cette profession qui était un peu sinistrée jusque-là. Je me rappelle avoir participé à des séminaires ou des colloques de transitologie. C'est une science très passionnante. Toujours ingénieux, Shimon Peres propose un plan Marshall pour le Moyen-Orient qui contribuerait à l'instauration de la paix et au développement économique de la région. Il est évidemment prêt à faire financer ce plan par les Américains et les Européens. Cette incitation à participer au processus de paix est tout à fait vide de sens, puisqu'elle ne prend pas en compte la réalité économique de la région qui est construite autour de la rente pétrolière. Même en temps de contre-choc pétrolier, la région est exportatrice nette de capitaux et non importatrice de capitaux. Donc un plan Marshall n'a pas de sens. Comme il se doit, les propositions de Peres sont immédiatement interprétées comme la volonté de construire un condominium israélo-américain sur l'économie régionale. Quant au président de la Commission européenne, Jacques Delors, il estime que ce plan ne doit pas occulter les problèmes politiques du Moyen-Orient. Il faut en même temps s'occuper des causes du conflit israélo-arabe. Alors, de nouveau de la violence, ça fait partie de la chronique, c'est la musique de fond, si vous voulez. À partir du mois d'avril, on a les violences qui reprennent à Beyrouth entre Hamas et les miliciens palestiniens. C'est la reprise de la guerre des camps qui a pour cause immédiate l'infiltration de miliciens du Fatah à Beyrouth-Ouest. Logiquement, ils n'ont pu venir que par Chypre, ce qui veut dire qu'ils sont passés par le secteur chrétien. Autrement dit, il y a eu alliance entre le Fatah et les forces libanaises face à leur ennemi commun, le régime de Damas. Donc nous avons maintenant, après la formule de 1976, alliance entre les forces libanaises et la Syrie contre les Palestiniens, la formule 10 ans après, alliance des forces libanaises et du Fatah contre la Syrie, ce qui montre qu'on peut réduire à un jeu d'équations la guerre du Liban. Ce que j'avais essayé de démontrer jadis avec mon ami Samir Kassir. Mais on n'arrivait pas à faire les transitions. Alors la guerre des camps s'étend au Liban Sud, à Saïda et à Tyr. La violence est omniprésente au Liban, avec une succession d'attentats à la voiture piégée. Elle s'étend maintenant à la Syrie, victime à son tour d'explosions dans des transports en commun qui auraient fait 150 morts le 16 avril. Le régime de Damas désigne comme coupable dans la longue liste de ses ennemis les agents d'Israël au Liban et ensuite l'Irak. le terrorisme aérien continue d'exercer ses ravages. Le 2 avril 1986, une bombe explose au bord d'un avion de la TWA assurant la liaison Rome-Athènes-Le Caire, faisant 4 morts et 9 blessés. Les soupçons se portent sur le groupe Abu Nidal, mais sans preuve concluante. Le 5 avril, une bombe tue 2 personnes et fait de nombreux blessés dans des discothèques à Berlin, fréquentées par des militaires américains. Cette fois, les écoutes des services de renseignement américains permettent de tracer le commanditaire comme étant la Libye, et Kadhafi devient l'homme à abattre. Le 15 avril, l'aviation américaine bombarde la capitale libyenne à partir de la Grande-Bretagne, la France ayant refusé que l'on utilise son espace aérien. Pour Washington, c'est un acte de légitime défense destiné à prévenir et à décourager le terrorisme libyen. Ont été visés les quartiers généraux, les installations terroristes et militaires qui soutiennent les activités subversives de Kadhafi. L'intéressé, qui officiellement n'a pas été visé pour des raisons juridiques, s'en est sorti indemne. Les pertes civiles, qui ici ne sont pas définies comme innocentes mais collatérales, sont importantes, plusieurs dizaines de personnes selon les autorités libyennes, dont des Libanais et, paraît-il, une fille dite adoptive de Kadhafi. Puis ensuite, on a dit qu'elle n'était pas adoptive et on vient de découvrir qu'elle n'était pas morte. Ça, c'est une autre histoire. Il y a d'excellents reportages dans la presse française sur cette fille morte en 86 et qui dirigeait un hôpital en 2011. Mais en tout cas, il y a eu des victimes civiles, incontestablement, au raid israélien. Américain. Le retentissement de l'affaire est considérable. L'anti-américanisme est renforcé dans le monde. À Beyrouth, 3 otages britanniques sont assassinés. Le 17 avril, un garde israélien à l'aéroport d'Heathrow découvre 1,5 kg d'explosifs du Semtex dans un sac d'une passagère britannique qui allait s'embarquer dans l'avion d'El Al. L'enquête s'oriente directement vers un jordano-palestinien, son fiancé Nizar Ndawi, qui est arrêté par la police britannique. Sa relation avec les services secrets syriens est établie. Il sera condamné en octobre 1986 à 45 ans de prison, la plus lourde peine imposée par un tribunal britannique depuis la suppression de la peine de mort. L'affaire comporte une large part d'ombre, même si la thèse qu'il était un agent double manipulé par les services israéliens semble peu crédible. En revanche, la question de savoir si le niveau le plus élevé de la hiérarchie syrienne a été compromis reste ouverte. En tout cas, le contexte général d'attentats contre des populations civiles et de raids aériens avec pertes collatérales a certainement joué dans la genèse de cette tentative d'attentat. La lutte contre le terrorisme devient le ciment d'une nouvelle alliance entre Israël et les pays occidentaux. La réunion du G7 à Tokyo le 5 mai 1986 annonce une action commune contre le terrorisme et les pays qu'ils soutiennent avec des menaces de sanctions. La Libye est directement visée, mais la Syrie apparaît comme seconde sur la liste. L'affaire Ndawi peut paraître comme un casus belli, d'où une montée de la tension régionale. Comme personne ne veut une guerre, les différents intéressés multiplient les déclarations apaisantes. La prudence légendaire de Hafez al-Assad paraît la meilleure garantie de son absence d'application dans la tentative d'attentat contre l'avion d'El Al. Pour les Américains, il est indispensable dans le règlement de l'affaire des otages du Liban. Israël a les moyens de battre l'armée syrienne, mais étant donné l'ampleur de son réarmement depuis 1982, la guerre serait certainement coûteuse pour un gain politique douteux. En particulier, la Syrie dispose maintenant de missiles sol-sol capables de frapper le territoire israélien, dissuasion efficace contre une réitération de la campagne aérienne israélienne de destruction des infrastructures civiles et économiques de 1973. La réconciliation jordano-syrienne est scellée par une visite d'Assad à Amman le 5 et 6 mai 1986. On se félicite de l'excellence des rapports entre les deux pays. La tension entre la Syrie et Israël retombe progressivement. La tension israélienne se détourne à la fin mai 1986, sur un sujet de politique intérieure. L'exécution sommaire de deux terroristes lors de l'affaire du détournement d'un autobus en avril 1984 avait été révélée par la presse. Une commission d'enquête avait été formée. Manipulée par le Shin Bet, les enquêteurs soupçonnent les militaires d'être responsables, mais ces derniers sont finalement innocentés. Quand Pérez devient Premier ministre, le numéro 2 de Shin Bet lui dénonce son patron. Le Premier ministre y voit un règlement de compte personnel et décide d'étouffer l'affaire. En accord avec Shamir, le Premier ministre décide d'étouffer l'affaire. En accord avec Shamir, Premier ministre, au moment des faits, il décide de limoger la direction de Shin Bet, mais la justice est saisie et l'affaire est rendue publique. Finalement, les principaux intéressés démissionnent de leurs fonctions et sont ensuite amnistiés par le président de la République avant tout jugement, puisque le système israélien prévoit des amnisties avant jugement. Une victime collatérale de cette affaire est le premier dialogue secret avec l'OLP. Je vous rappelle, il s'était commencé en 1985. Il s'était tenu essentiellement en Europe, sans avoir été affecté par les événements en cours, Chypre, Tunis, l'Aquilée, l'Auro. Les Israéliens ont maintenu la fiction qu'ils étaient à la recherche des dépouilles des soldats israéliens tombés au Liban Sud, alors que les Palestiniens étaient dans la capacité de les leur livrer. On a échangé des idées sans leur donner un caractère de proposition ferme. Assez clairement, les Palestiniens étaient intéressés à se séparer des Jordaniens, alors même jusqu'à envisager une confédération israélo-palestinienne. On a évoqué une phase d'autonomie palestinienne qui commencerait par Gaza, première étape d'un processus de paix. Ce dernier pourrait se dérouler sur deux plans, un débat public dans le cadre d'une conférence internationale avec une délégation jordano-palestinienne, les représentants palestiniens venant des territoires occupés, et une négociation secrète entre Israéliens et représentants de l'OLP habilités à prendre des décisions définitives. Pérez et Rabin avaient chargé le Shin Bet de ces discussions. Shamir avait été tenu régulièrement au courant. On avait même envisagé une rencontre secrète à Tunis. La démission des principaux responsables du service de sécurité met fin à l'entreprise, la nouvelle direction de Shin Bet considérant que ce n'était pas de son domaine de compétence. Si rétrospectivement, on trouve dans cette affaire des éléments qui composeront la négociation d'Oslo, au point qu'on en a pu parler d'une occasion manquée, on doit remarquer que l'état d'esprit était loin d'être mûr. En revanche, c'est la première fois où, dans le deuxième canal, la fameuse track two, dans le jargon diplomatique, on est monté à ce niveau de responsabilité. Deux principes cardinaux ont été établis, le secret le plus absolu qui est l'intérêt des deux parties et la recherche de solutions pragmatiques. Oui. Dans le jargon du Moyen-Orient, on parle de track one, track two, donc piste 1, piste 2, ou canal 1, canal 2. Le canal 1 est le canal officiel de négociation. Ici, c'est les discussions autour d'une conférence internationale. Et puis, vous avez les négociations secrètes qui ont lieu par le canal numéro 2 et qui ont commencé depuis déjà un certain nombre d'années. Et cette négociation est la première fois dans le canal 2 on est monté réellement à un vrai niveau de responsabilité dans les discussions secrètes. À la fin mai, la nouvelle guerre des camps s'intensifie à Beyrouth. Arafat appelle à la fin du carnage et accuse un complot israélo-américain dont la Syrie serait l'agent, tandis que Nabi Berri s'en prend à la collusion entre Amin Gemayel et le chef de l'OLP. L'Iran propose sa médiation et obtient le 11 juin l'évacuation d'un certain nombre de blessés des camps, puis les combats reprennent. À la fin du mois, un calme précaire s'installe avec la mise en place d'une force tampon. Dans la foulée, on met en place un nouveau plan de sécurité à Beyrouth-Ouest, avec participation de soldats syriens à côté des militaires et des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire des gendarmes libanais. L'importance de l'enjeu libanais est marquée par l'interception par l'armée israélienne d'un commando palestinien venu par mer du Liban à proximité de la frontière le 10 juillet. Les 4 membres du commando ainsi que 2 soldats israéliens sont tués. L'opération est revendiquée par l'FPLP avec participation du PSNS, donc Parti Social National Syrien, l'ancien PPS. Israël, en représailles, bombarde les camps palestiniens de la région de Saïda. Le harcèlement de l'ALS et des troupes d'occupation dans la zone de sécurité se poursuit avec les habituelles actions de répression et de représailles du côté israélien. Mais Rabin et les chefs militaires refusent toute nouvelle aventure à l'intérieur du territoire libanais. Alors, repassons maintenant à la diplomatie, selon le balancement habituel. Le 7 juillet 1986, le gouvernement jordanien décide la fermeture des derniers bureaux de l'OLP et le lendemain, l'expulsion d'Abou Jihad de Jordanie. La décision est très impopulaire en Cisjordanie, où dans les universités, on brûle en effigie le portrait du roi Hussein et le drapeau jordanien. Le 21 juillet, Shimon Peres est reçu par le roi Hassan II à Ifrane, au Maroc. De l'aveu du roi du Maroc, c'est un dialogue de sourds, je cite. « J'ai dit à M. Shimon Peres, que dites-vous au sujet de l'OLP ? Je ne la reconnais pas. Quoi, qu'allez-vous faire donc ? Avec qui allez-vous entamer le dialogue puisque vous dites vouloir résoudre le problème palestinien ? C'est moi qui vous interrogeais sur les interlocuteurs. On les trouve en Syrie, en Jordanie et en Tunisie. Avez-vous quelque chose à dire sur les territoires occupés ? Vous devez vous en retirer totalement. Je n'en ai pas l'intention. Dès lors, il ne me restait plus qu'à lui dire au revoir. Je suis avec vous, non pour une négociation sur ces territoires. Je suis là pour vous dire, vous devez évacuer ces territoires. Voici les résolutions de Fès. Vous devez discuter avec l'OLP, passage obligé. Comme vous n'acceptez pas ces deux priorités, il est inutile que nous continuions cette conversation. » Fin de citation. Le communiqué commun parle d'un examen approfondi de la situation au Moyen-Orient, des conditions de forme et de fond susceptibles de contribuer efficacement à l'instauration de la paix dans cette région. Ils ont normalement des logiciels pour faire les communiqués. Les radicaux arabes condamnent avec véhémence l'entrevue d'Ifrane, tandis que les modérés se montrent embarrassés. À Beyrouth, les manifestants du Hezbollah saccagent l'ambassade du Maroc, tandis que la Syrie rompt les relations diplomatiques avec le royaume chérifien. En Israël, on se félicite de l'ouverture d'un dialogue public avec un autre État arabe que l'Égypte, promesse que l'hostilité arabe n'est pas irrémédiable. On préfère ne pas insister sur l'absence de solution de la question palestinienne. Le roi Hussein essaye bien de rétablir son influence en Cisjordanie en coopérant avec les Israéliens tout en présentant son action du côté arabe comme le seul moyen de renforcer la position des habitants des territoires face aux empiétements permanents des Israéliens. Après avoir rencontré Rabin secrètement à Strasbourg en mars 1986, il reçoit clandestinement Rabin et Peres à Aqaba au mois de juillet. Les deux responsables travaillistes affirment qu'ils continueront à agir en faveur de la conférence internationale après la rotation des pouvoirs. Ils sont d'accord pour soutenir un plan économique de développement de la Cisjordanie financé par les Américains. Ça, ils sont tout à fait d'accord pour recevoir l'argent des Américains. La Jordanie demande un engagement $1,5 milliard de dollars sur 5 ans, mais le Congrès américain n'accorde que 90 millions. Le seul accord durable est une action conjointe contre les partisans de l'OLP avec une censure accrue de la presse arabe de Jérusalem. En septembre, Israël désigne à la direction des municipalités d'Hébron, Ramallah et El-Biré des personnalités arabes agréées par la Jordanie. En octobre, la Jordanie commence à accorder des passeports jordaniens temporaires aux habitants de la bande de Gaza, réfugiés en Jordanie. Le résultat pratique de cette politique, c'est de renforcer la position des frères musulmans dans les territoires occupés après la libération du Cheikh Yassine. La branche palestinienne du mouvement collabore étroitement avec la branche jordanienne qui a toujours eu des relations complexes avec la monarchie hachémite puisqu'elles avaient un ennemi commun dans le nationalisme arabe de tendance socialiste. La priorité donnée à l'édification d'une société islamique par les bonnes œuvres et l'imposition forcée d'une moralisation des mœurs sur la lutte armée de libération fait toujours apparaître les frères musulmans comme des apolitiques ou pour le moins comme des antidotes au militantisme politique de l'OLP. Un sondage, le premier de cette ampleur, fait en Cisjordanie dans la bande de Gaza, montre combien sont dérisoires les efforts faits pour établir une sorte de co-tutelle jordano-israélienne sur les territoires occupés. 80,6% des habitants rejettent la résolution 242 parce que pour 56,8%, elle ne reconnaît pas les droits des Palestiniens à l'autodétermination et pour 6,8% parce qu'elle reconnaît Israël, pour 33,4% parce qu'elle n'est pas adéquate pour résoudre le problème palestinien. L'ONP est reconnue par 93,5% comme seul représentant légitime du peuple palestinien. On se reconnaît à 71,2% dans les choix politiques de la direction actuelle, contre 4,8% pour les groupes palestiniens de Damas, 3,2% pour le roi Hussein, 0,4% pour les ligues de village, et aucune instance mentionnée, 10,7%, c'est-à-dire en fait les frères musulmans. Enfin, sans opinion, 1,4%. La solution permanente préférée est pour 79,9% un État démocratique palestinien sur la totalité du territoire de la Palestine. 3,7% l'intégration de la Cisjordanie à la Jordanie et de la bande de Gaza à l'Égypte. 1% pour la création d'une entité palestinienne en Cisjordanie et Gaza associée à la Jordanie. 16,9% la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Pour une période transitoire, un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza reçoit 49,7% d'approbation contre 6,3% le passage sous la souveraineté jordanienne et 43,2% la poursuite de la lutte pour la création d'un État démocratique palestinien sur la totalité du territoire de la Palestine. Les avis sont assez dispersés pour le système de gouvernement préféré. Monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire la Jordanie, 1%. Un système analogue à celui des pays d'Europe occidentale et des États-Unis, 1,9%. Un système socialiste analogue à celui de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, 6,7%. Un État fondé sur la loi islamique, 26,5%, là on voit l'audience des frères musulmans. Un État fondé sur le nationalisme arabe, 2,1%. Un État fondé sur le nationalisme arabe et l'islam, 29,6%. Là on est plutôt dans la mouvance du Fatah. Un État démocratique laïque, 10,4%. Démocratique palestinien, 21,2%. Sans opinion et refus de répondre, 0,5%. L'usage de la violence dans l'intérêt de la cause palestinienne est approuvé par 78,4% contre 11,5% contre et 10,1% sans opinion. Pour 85,5%, le rôle des États-Unis dans le processus de paix est considéré comme négatif contre 3,4% et 1% de sans opinion. Alors que pour 60,8%, on pense que les États-Unis pourraient jouer un rôle utile contre 28% de non et 12,3% de sans opinion. À la question, vous-même ou des membres de votre famille immédiate ont subi les situations suivantes. Arrestation politique, oui, 47,5%. Sévices, mauvais traitements ou menaces de la part des autorités israéliennes d'occupation, 50,7%. Tracasseries ou insultes caractérisées à des postes de contrôle militaire israélien, 55,7%. Confiscation de biens ou de terres par les autorités israéliennes, 22,8%. Interdiction de déplacement à l'étranger, 34,1%. Couvre-feu, 74,2%. Démolition de domicile ou apposition de scellés, 17,6%. Déportation ou assignation à domicile, 15,7%. Amende infligée par des tribunaux militaires ou autres peines directes, 37,6%. Rien subi de tel, 6,3%. Autrement dit, plus de 90% de la population des territoires, à un moment ou à un autre, était victime d'actes de répression israéliens. Les actes de violence sont largement approuvés, avec par exemple 60,5% pour une bombe dans un avion d'El Al ou même 36,69% pour les attentats dans les aéroports de Vienne et de Rome en décembre 1985. Le sondage montre combien l'OLP reste de loin la force dominante dans les territoires occupés, tout en enregistrant la progression des islamistes, surtout implantés dans la bande de Gaza. En dehors de l'OLP et des islamistes, il n'existe pas de force politique représentative. Pour des raisons différentes, les islamistes et le Fatah se retrouvent dans une commune hostilité à la Syrie, où l'appartenance au mouvement des frères musulmans constitue un crime punissable de mort. Voilà donc pour ces sondages. L'administration Reagan croit toujours en une négociation directe officielle entre la Jordanie et Israël. À la fin juillet, début août, le vice-président Bush est envoyé en tournée officielle de 11 jours au Proche-Orient, ce qui prépare aussi sa candidature à la succession de Reagan en 1988. Un soin particulier est donné aux photographies en Israël. Il est ainsi filmé avec une kippa au mur des Lamentations, mais non en Jordanie, car il n'y a rien à gagner à se montrer fraternisant avec des Arabes. Moubarak ne reçoit que de bonnes paroles à sa demande d'accroissement de l'aide américaine, alors que l'Égypte connaît une grave crise financière. On progresse sur le dossier de tabac. Depuis le début de l'année, l'Égypte et Israël ont accepté le principe de l'arbitrage, mais s'opposent sur les termes de référence de cet arbitrage. Il faut néanmoins encore un mois de négociation pour arriver à un accord définitif. Durant cette tournée, George Bush affirme la détermination de son pays de s'en tenir au plan Reagan. Une conférence internationale ne ferait que reproduire les impasses de l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis sont favorables à l'autodétermination, mais ne veulent pas d'un État palestinien. Autrement dit, ils veulent bien d'une autodétermination à condition que ce soit eux qui déterminent. Le roi Hussein insiste sur le fait que, n'ayant plus la participation de l'OLP, il lui faut au moins la conférence internationale, ce qui pourrait permettre à la Syrie d'y participer. En Israël, la Knesset adopte un projet interdisant tout contact délibéré entre des Israéliens et des représentants de la direction de l'OLP, et en compensation, un autre projet qui punit toute forme de persécution contre des personnes en raison de leur couleur, leur appartenance à une race ou leur origine ethnique. Les citations de certains livres sacrés et religieux contenant des formules qui peuvent être considérées comme racistes ne tombent pas sous le coup de la loi, à moins de prouver que ces citations sont utilisées à des fins racistes. C'est ça le problème que pose entre autres la Bible, puisqu'il y a des larges incitations à la violence dans le texte biblique, aussi bien que dans le Coran d'ailleurs, mais tout un problème de lecture. C'est le mouvement du rabbin Kahane qui est directement visé. L'interdiction de contact avec des représentants de l'OLP montre combien la perspective s'est transformée par rapport à l'époque où c'était les Palestiniens qui étaient condamnés par les leurs pour des contacts avec des Israéliens. Le refus a changé de camp, mettant Israël en difficulté sur la scène internationale. Une tentative d'ouvrir un dialogue entre Israël et l'Union soviétique échoue à Helsinki. Les Israéliens insistent avant tout sur la liberté d'immigration des Juifs soviétiques, tandis que leurs interlocuteurs veulent parler de la conférence internationale et de la question des biens russes en Israël. Alors, l'habituelle balance, on repasse au terrorisme, qui est un peu le versant local de la diplomatie. Le début septembre 1986 est marqué par deux actes de terrorisme. Le 5 septembre, un commando de quatre Palestiniens s'empare d'un Boeing de la Paname à Karachi, au Pakistan. Il tue un passager américain. La police pakistanaise donne l'assaut. Une vingtaine de passagers sont tués. Le 6 septembre, deux inconnus ouvrent le feu à la mitraillette sur des fidèles priant dans la synagogue d'Istanbul. Quand la police intervient, ils lancent des grenades et sautent avec. Le bilan est de 22 morts, dont 7 religieux juifs. Les deux opérations sont attribuées par les experts du renseignement au groupe Abou Nidal. Oui, ça, c'est une photo qui aurait dû être collée plus tard. C'était Hassan II et Pérès Aïfran. Bon, ces photos ne sont pas de bonne qualité. Après une phase ultime de négociation, l'accord d'arbitrage sur Taba est réalisé le 11 septembre. Vous vous rappelez, Taba, c'est cette petite enclave que les Israéliens avaient refusé de rétrocéder à côté de Aqaba à l'Égypte. Immédiatement, Pérès obtient un sommet avec Moubarak le 12 septembre à Alexandrie, le premier de ce genre depuis 1981. L'échange de vues comporte une discussion sur la conférence internationale qui doit servir de cadre à des négociations directes. Le Likoud exprime immédiatement son hostilité et Rabin ses réticences. Les responsables israéliens précisent que la participation de l'Union soviétique au Forum international est conditionnée à la reprise des relations diplomatiques et la liberté d'émigration des Juifs soviétiques. Par ailleurs, l'Égypte désigne un nouvel ambassadeur à Tel Aviv. Dans la foulée, Pérès se rend à Washington où on le félicite pour la réussite de sa politique, mais on lui exprime en même temps de fortes réticences envers l'idée d'une participation soviétique à la conférence internationale. Le 22 septembre, il rencontre à New York, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edward Shevardnadze. Son interlocuteur insiste sur les conséquences négatives du militantisme d'Israël envers l'Union soviétique, en particulier sur la question des Juifs soviétiques, tout en ne cachant pas qu'un changement de ton permettrait une reprise des relations diplomatiques. L'Union soviétique doit avoir un rôle actif dans la conférence internationale. L'atmosphère de l'entretien est particulièrement cordiale, signe des changements en cours. Au Liban, les relations se sont dégradées entre le contingent français et le mouvement Hamal. Les casques bleus français sont victimes de plusieurs attentats, ce qui conduit à un redéploiement sur des positions moins exposées. Parallèlement, l'ALS a enregistré de nouvelles pertes lourdes, ce qui contraint l'armée israélienne à renforcer sa présence dans la zone de sécurité et à intensifier ses opérations de représailles dissuasion. Le Conseil de sécurité est saisi du dossier. À l'instigation de la France, le Conseil de sécurité vote par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis, la résolution 587 du 22 septembre 1986, qui rend hommage à la FENUL et rappelle sa mission, je cite, « demande à nouveau la fin au Liban Sud de toute présence militaire qui ne soit pas acceptée par les autorités légales, demande au secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à un déploiement de la FENUL jusqu'à la frontière méridionale et appelle solennellement toutes les parties intéressées à collaborer à la réalisation de cet objectif. » Israël rejette cette solution qui ne comprend pas la conclusion d'accords de sécurité pour protéger le territoire israélien. Comme il n'est pas question de sanctions, cette résolution, comme les précédentes, reste vide d'application. Le rassemblement des oulémas libanais, proches du Hezbollah, marque que les musulmans rejettent la résolution 587, je cite. Nous estimons que la 587 est encore plus négative à notre égard que les résolutions qui l'ont précédée, car elle place sur un pied d'égalité agresseurs et agressés, militants musulmans et oppresseurs juifs. En outre, cette résolution proclame son appui à la légalité libanaise à l'intérieur des frontières internationales, cette légalité qui est opposée à la lutte des militants musulmans. La 587 vise à mettre un terme à notre conflit avec les Juifs en nous écartant du seul axe de confrontation au corps ouvert avec l'ennemi. Dans la région de Tyr, la guerre des camps entre Hamal et les Palestiniens reprend au mois d'octobre, en dépit des différentes médiations arabes. Arafat accuse Hamal de coopérer avec les troupes d'occupation israéliennes au Liban Sud pour un nouveau massacre de Palestiniens. Le mouvement chiite exige le désarmement complet des 36 000 Palestiniens. En mer, des vedettes israéliennes contribuent au blocus des camps. À la fin du mois, le Fatah prend l'offensive dans la région de Saïda et inflige de sérieux revers à Hamal. Le mouvement chiite continue pourtant d'exiger d'avoir le monopole des forces armées au Liban Sud et l'OLP l'accuse de vouloir former un canton chiite dans la logique du plan israélien de diffusion confessionnelle de la région. Les combats s'intensifient durant le mois de novembre. Les opposants à Arafat et les dissidents palestiniens portant alliés à la Syrie combattent à côté du Fatah dans ce qui apparaît de plus en plus comme une guerre chiito-palestinienne. Le 10 octobre, comme prévu, Peres remet sa démission de Premier ministre et est chargé de l'administration des affaires courantes, tandis que Shamir consulte pour la formation du nouveau gouvernement. Il existe plusieurs différends entre les intéressés sur la composition de la liste finale de ministres. Shimon Peres est sorti grandi de son mandat de 2 ans et demi. Son gouvernement a assuré le redressement de l'économie israélienne. L'inflation annuelle est tombée au-dessous de 15%, a ramené l'armée israélienne sur la zone de sécurité au Liban et relancé les relations avec l'Égypte. Sa rhétorique nouvelle et son acharnement à réaliser l'option jordanienne contrastent avec les gouvernements travaillistes précédents, adeptes plutôt de l'immobilisme. Son image de faucon a laissé la place à celle de colombe. Mais il n'a en rien freiné la colonisation de la Cisjordanie. Au moment de son accession au pouvoir, il y avait 46 000 colons. 14 000 nouveaux colons ont été installés durant la première année, 5 000 durant la seconde. La diminution est essentiellement due à la politique d'austérité et non à une inflexion de la politique. Nous allons peut-être arrêter là pour aujourd'hui, pour des tas de raisons scientifiques et autres, mais entre autres parce que je suis en train de perdre ma voix et que je préfère m'arrêter.